VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, Monsieur, bonsoir. Saloua Jafari et Morgane Guiriec au micro. Nous sommes le mercredi 1er avril 2015. À la une ce soir.
Mouhamadou Bouhari est le nouveau président du Nigeria. Une victoire éclatante, accueillie avec optimisme par la communauté internationale.
Nous partirons au Niger à la rencontre des réfugiés qui fuient les violences perpétrées par Boko Haram.
Le jour où Boko Haram avait attaqué, nous on a fui. Sans chaussures, sans habits, comme ça on a traversé pour venir au Niger. Donc l'eau, ils en ont suffisamment, mais c'est au niveau de la nourriture qu'il y a des difficultés.
À suivre le reportage de notre envoyé spécial au Niger.
À l'international, l'État islamique a pour la première fois pénétré Damas, selon une source palestinienne. La majorité du camp de réfugiés Yarmouk est sous le contrôle de l'organisation.
C'est la cacophonie à Lausanne, en Suisse. Toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons sur l'élection présidentielle au Nigeria. Dans son tout premier discours, le président élu, Mouhamadou Bouhari, s'est réjoui que son pays ait choisi la démocratie et rejeté le système de parti unique. L'ancien dictateur a aussi tendu la main à son prédécesseur Goodluck Jonathan, qu'il avait appelé hier avant même la proclamation des résultats. Le point avec Bagassi Koura.
Nous avons prouvé au monde que nous sommes un peuple qui a choisi la démocratie et des gens qui cherchent un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
M. Bouhari s'est exprimé hier soir à Abuja, quelques heures seulement après que la commission électorale l'a déclaré vainqueur officiel de l'élection présidentielle. L'ex-général a qualifié son rival, le président sortant Goodluck Jonathan, d'adversaire valeureux à qui il tend la main de l'amitié. Pour sa part, M. Jonathan a demandé à tous les Nigériens d'accepter le verdict des urnes. Aucune ambition personnelle, a-t-il dit, ne vaut le sang d'aucun Nigérien. La sécurité était également au centre du discours de Mouhamadou Bouhari. L'ex-général a rappelé sa détermination à lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram qui ravage le nord-est du pays depuis 6 ans. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour amener la paix, a déclaré le général retraité de 72 ans. Le mandat de M. Bouhari débutera officiellement le 29 mai, date de son investiture.
Cela ne fait donc désormais aucun doute, Mouhamadou Bouhari est le nouveau président du Nigeria. Une victoire éclatante qui a suscité plusieurs réactions de par le monde, à commencer par celle du locataire de la Maison Blanche. Le vainqueur n'a pas été le seul à recevoir les félicitations. Michel Joseph.
Barack Obama a bien évidemment félicité le président élu, Mouhamadou Bouhari, en saluant au passage le respect des principes démocratiques dont le pays a fait preuve durant le scrutin. Et puis, il a tiré son chapeau au président sortant, Goodluck Jonathan, qui, a-t-il dit, a placé les intérêts de son pays en premier, en reconnaissant sa défaite et en félicitant le président élu Bouhari pour sa victoire. Le président français François Hollande a fait de même tout en réitérant la volonté de la France de poursuivre des relations étroites avec le pays. Au nom de la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU a qualifié la victoire de Mouhamadou Bouhari de preuve de la maturité de la démocratie au Nigeria. Il a ensuite souhaité que le même esprit démocratique prévale lors des élections des gouverneurs et parlements des États de la Fédération nigériane le 11 avril. Ban Ki-moon a appelé les Nigérians à accepter le résultat de vote et à saisir les tribunaux en cas de contestation. Autre réaction, l'Union européenne a dès hier soir remercié le président sortant pour sa contribution à la consolidation de la démocratie dans le pays, un pays qui a connu 6 coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution exhortant la communauté internationale à soutenir davantage les pays africains dans leur lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Félix Sepassi-Zemrou.
La résolution appelle la communauté internationale à fournir un plus grand soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Nigeria et à tout autre pays affecté par les actions du groupe terroriste Boko Haram. Le texte adopté lors d'une réunion extraordinaire du Conseil convoqué à la demande du groupe africain et d'autres pays, dont la France et la Russie, stipule que l'assistance portée aux pays affectés se fasse à leur demande et en collaboration étroite avec leurs gouvernements respectifs. La résolution demande notamment à la communauté internationale d'apporter une assistance technique à la force multinationale mixte de l'Union africaine chargée de combattre Boko Haram. Ce carnage qui constitue une claire menace doit s'arrêter, a affirmé le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Mais il a demandé aux pays africains de respecter les droits de l'homme, soulignant qu'il existe des informations crédibles accusant les forces de sécurité du Nigeria et d'autres pays de commettre de graves violations dans le cadre de la répression de Boko Haram.
République démocratique du Congo, la coopération entre la MINUSCO et l'armée congolaise doit reprendre le plus tôt possible afin de combattre efficacement les rebelles hutus, rwandais actifs dans l'est du pays. C'est ce qu'estime le chef de la mission onusienne en RDC, Martin Kobler, dénonce les effets négatifs de la non-coopération entre les soldats congolais et les casques bleus. D'après lui, l'armée congolaise a certes récupéré des positions jadis tenues par les rebelles rwandais qui ont donc disparu de ces territoires. Mais ailleurs, les combattants se sont mêlés à la population locale, a-t-il souligné. Rappelons que la RDC a renoncé à l'aide de l'ONU dans cette opération après des pressions l'invitant à remplacer deux généraux soupçonnés de graves violations des droits de l'homme.
Le Maroc a annoncé avoir démantelé une cellule recrutant des combattants pour le groupe djihadiste État islamique à Fès, une des principales villes du Maroc. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le démantèlement de cette cellule terroriste a été réalisé par le tout nouveau BCIJ, le Bureau central des investigations judiciaires, la nouvelle structure inaugurée le mois dernier par les autorités marocaines dans le cadre du renforcement de la lutte antiterroriste. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur marocain, les combattants recrutés par cette cellule étaient envoyés dans des camps situés dans la zone de conflit syro-irakienne pour y recevoir des entraînements intensifs au maniement des armes. Et le chef de cette cellule entretenait de solides liens avec les dirigeants du groupe État islamique. Toujours selon les informations du ministère, cette cellule aurait reçu un important financement étranger, notamment pour le déplacement des combattants. Quelques 1500 ressortissants marocains auraient rejoint les rangs d'organisations djihadistes, ce qui fait du royaume chérifien un des principaux pays pourvoyeurs de combattants d'origine étrangère.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité internationale, cette percée majeure de l'État islamique, le groupe a pénétré aujourd'hui pour la première fois à Damas, fief du régime syrien, en s'emparant d'une grande partie du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. C'était lors d'un assaut éclair, information recueillie par l'AFP du directeur des affaires politiques de l'OLP en Syrie.
Et puis cette nouvelle liste rendue publique par le centre de surveillance américain de groupes extrémistes Intel Center, selon l'organisation 21 mouvements djihadistes du monde ont juré allégeance au chef du groupe État islamique al-Baghdadi et 10 lui ont apporté leur soutien. On apprend aussi qu'il y aurait 31 mouvements implantés dans le monde, dans un arc allant de l'Algérie à l'ouest à l'Indonésie à l'est.
C'est la cacophonie à Lausanne, en Suisse, toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien. Quelques heures après avoir été suspendu dans la confusion, les discussions ont repris ce mercredi 1er avril, ce matin. La Russie et l'Iran ont évoqué des progrès et même un début d'accord, alors que les États-Unis assuraient que toutes les questions n'avaient pas été réglées. Un survol de la situation avec Jacques Aristide.
Les pourparlers marathon entre les grandes puissances et l'Iran auraient dû s'achever mardi à minuit avec l'expiration de la date butoir. Au lieu d'un accord préliminaire, ce sont des messages contradictoires qui fusaient de toutes parts à ce mercredi. Si l'Iranien Mohammad Javad Zarif espérait la conclusion d'un accord aujourd'hui, le russe Sergei Lavrov, lui, faisait état d'un accord de principe déjà obtenu et qui allait être accouché sur le papier, je cite, « dans les prochaines heures ». Toutefois, des diplomates occidentaux estimaient qu'un accord de principe n'avait pas encore été conclu. Philip Hammond, secrétaire du Foreign Office britannique, a fait savoir que des points restaient à résoudre. Malgré l'incertitude, le secrétaire d'État américain John Kerry a entamé ce mercredi une rencontre avec son homologue Javad Zarif. Et depuis Jérusalem, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois mis en garde contre ce qu'il appelle un mauvais accord qui mettrait en danger Israël, le Moyen-Orient et la paix dans le monde.
La Palestine recherche la justice, pas la vengeance. C'est en ces termes que le chef de la diplomatie palestinienne s'est exprimé en recevant une copie symbolique du statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. La Palestine est officiellement membre de la CPI. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à huis clos au siège du tribunal de La Haye.
Au Yémen, la population civile prise dans l'étau entre les forces de la coalition de Riyad et les rebelles Houthis, au moins 37 civils ont été tués ce matin dans le bombardement d'une laiterie dans l'ouest du pays. Un bilan qui confirme une fois de plus les inquiétudes d'organisations humanitaires sur le sort de la population. Selon l'UNICEF, au moins 62 enfants ont été tués et 30 autres blessés dans des combats depuis la semaine dernière.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui qu'est entrée en vigueur la taxe d'embarcation sur le fret aérien à Kinshasa. Toute personne désireuse d'envoyer une marchandise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays devra s'acquitter de cette taxe fixée à 1% du coût du fret. Guy Matondo, ministre provincial de Kinshasa en charge des finances, a assuré que toutes les dispositions utiles ont déjà été prises pour sa perception par les transporteurs aériens. Côte d'Ivoire a ouvert ce mercredi de la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao. Le pays enregistre deux campagnes de cacao par an, avec la récolte principale du 1er octobre au 31 mars et la récolte intermédiaire ou petite traite qui va d'avril au mois d'août. La campagne intermédiaire est caractérisée par un grainage élevé des fèves plus petites, moins riches en matière grasse et beaucoup plus difficiles à traiter, entraînant des baisses de rendement à l'usinage, avec pour conséquence une décote appliquée en fonction du niveau de grainage. Le gouvernement du Mali et l'Agence spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, ont annoncé aujourd'hui un programme de relance de la production agricole dans le nord du pays gravement affecté par les attaques de groupes armés. Un projet de 5 millions de dollars de la FAO, dont le siège est à Rome, doit financer les moyens de production des familles dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti dans le nord du Mali, indique aujourd'hui l'organisation dans un communiqué.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Place au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Du rififi dans le football béninois.
Dans l'affaire du retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football, le ministre béninois des Sports s'est expliqué devant la presse. Les précisions à Cotonou d'Élisée Ongpatine.
C'est à travers un point de presse que le ministre des Sports et ses collaborateurs ont expliqué les raisons du retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football. L'une des conséquences de ce retrait, c'est la suspension des championnats de Ligue 1 et 2, comme nous l'explique Safiou Afo, ministre de la Jeunesse des Sports du Bénin.
La suspension du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est une nécessité pour des raisons de sécurisation, pour éviter des troubles. Parce qu'il y en a qui sont pour la décision, il y en a qui sont contre. S'ils vont s'affronter sur le terrain, c'est la responsabilité de l'État.
La suite, c'est également une feuille de route, un plan sans doute pour sortir le football béninois de cette situation. Farouk Soumanou, président du Fonds d'aide pour le sport.
Le ministre de la Jeunesse va rencontrer tous les acteurs de toutes les tendances, de tous les camps. Après cela, le ministre procédera à l'installation du comité national de normalisation. Et c'est ce comité qui aura un cahier des charges et un délai bien déterminé pour mettre les différentes commissions techniques en place afin de faire des propositions concrètes.
La réaction du comité de la Fédération béninoise de football est attendue. Boycon, Élisée Ongpatine, La Voix de l'Amérique.
Nouvelle victoire de l'Argentine.
L'Argentine, une nouvelle fois privée de son maître à jouer, Lionel Messi, a battu cette nuit l'Équateur 2-1 en match amical près de New York. Sergio Agüero a ouvert le score pour l'Argentine avant que Miller Bolamos n'égalise pour l'Équateur. Et c'est finalement Javier Pastore qui a offert la victoire aux Argentins.
Et pour terminer, Nicolas, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA.
San Antonio a quasiment son billet en poche pour les playoffs après son succès à Miami 95-81. Atlanta, déjà assuré de terminer en tête de la conférence Est, a concédé une deuxième défaite en trois matchs. Les Hawks se sont inclinés 105-95 à Détroit. Golden State s'est imposé dans la salle de son grand rival californien, les Los Angeles Clippers, 110-106. Et puis le joueur de la soirée, c'était Tony Parker, le meneur de jeu français des Spurs de San Antonio, quadruple champion NBA. Il est entré dans l'histoire en disputant son 1000e match de saison régulière. Chapeau l'artiste.
C'était les sports avec Nicolas Pineau. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Salwa Jafari et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Nigeria.
Retour sur la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle de ce week-end. Le président élu a tenu son premier discours dans la nuit. Ancien dictateur, il s'est réjoui que son pays ait choisi la démocratie et rejeté le système de parti unique. Alors comment la nouvelle a-t-elle été reçue par les électeurs? Idrissa Seydou Dia a joint le docteur Fomugno du National Democratic Institute. Depuis Abuja, il décrit l'atmosphère qui prévaut sur place.
Oui, l'atmosphère est festive, mais aussi dans le calme et dans la discipline. Je dirais même dans la convivialité, parce que le fait que le président Goodluck Jonathan ait pris son téléphone pour appeler Muhammadu Buhari et le féliciter avant même que la commission indépendante électorale n'annonce les résultats officiels, vraiment ça a calmé les choses et a rassuré les Nigériens qu'il n'y aurait pas de violence dans la période post-électorale. Et je crois que cet acte très symbolique, mais aussi très significatif de la part du président sortant, a rassuré tout le monde. Et tout à l'heure, le président nouvellement élu, le général Muhammadu Buhari, qui vient de faire une déclaration après avoir reçu son certificat de confirmation de la commission électorale indépendante. Donc l'atmosphère est vraiment paisible, conviviale et rassurante.
Comment va se faire la transition? Quand est-ce qu'il va prendre fonction le président élu Buhari?
Selon la constitution du Nigeria, la passation des services doit s'opérer le 29 mai. Et le président nouvellement élu, le général Muhammadu Buhari, a déjà dit que lui et le président sortant Goodluck Jonathan ont échangé sur une rencontre qui devrait se tenir dans les jours à venir, et une rencontre qui leur permettra à deux de mettre en place le processus de la transition pour que ça soit vraiment un succès qui vient couronner le succès de ce scrutin de mars 2015 au Nigeria.
En tant qu'observateur de la scène ou des événements africains, de l'Afrique de façon générale et du processus démocratique, vous envisagez une transition sans problème au Nigeria?
Je suis sûr et persuadé qu'en dépit de craintes qu'on avait tous avant ce scrutin de mois de mars, je peux affirmer que la passation de service va se passer sans heure. Je pense aussi que le Nigeria est en train de consolider son processus électoral et sa démocratie dans son ensemble et que ça servira d'un message très fort, d'un exemple aux autres pays africains, surtout que dans cette année 2015, nous avons beaucoup de pays africains qui ont programmé des élections nationales et qui devraient tout au moins se servir de l'exemple du Nigeria.
Voilà, c'était le docteur Christopher Fomugno, directeur pour l'Afrique au National Democratic Institute.
Ce mardi à 19h, temps universel, en lieu et place du magazine économique, VOA Afrique vous propose une émission interactive sur la présidentielle au Nigeria. Comment vivez-vous ces élections? Qu'attendez-vous du futur président du géant d'Afrique? Rendez-vous à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
C'est décidément un agenda téléphonique africain pour Barack Obama. Le président américain, on vous le disait, s'est entretenu avec le président nigérian et avec Joseph Kabila de la RDC. Les deux chefs d'État ont parlé notamment des élections à venir dans le pays. Obama a exhorté son homologue congolais à respecter la constitution et les délais des présidentielles. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire en RDC, a recueilli les réactions au lendemain de ce coup de fil.
Diverses réactions enregistrées à Kinshasa après la publication du communiqué de la Maison-Blanche au sujet de la conversation téléphonique mardi soir entre Barack Obama et Joseph Kabila. Le président américain a notamment souligné à son homologue congolais, je cite, « l'importance de la tenue d'élections crédibles et pacifiques dans les délais qui respectent la Constitution et protègent les droits de tous les citoyens de la République démocratique du Congo ». Fin de citation. Pour Martin Fayulu, député de l'opposition, il s'agit d'un appel qui tombe au bon moment.
C'est un appel logique parce que le président Obama, c'est un démocrate et s'est beaucoup investi pour que la démocratie s'installe en Afrique. Et nous trouvons aujourd'hui que cet appel est arrivé à point nommé. Donc il fallait dire à M. Kabila qu'il doit à tout prix respecter la Constitution. Nous félicitons le président Obama pour avoir demandé à M. Kabila de se déterminer.
À la majorité présidentielle, on accepte les recommandations du président Obama à condition qu'il s'agisse de conseils et non d'injonctions. Le député Gizanga est du parti Lumumbiste Unifié.
Si c'est à titre des conseils, eh ben nous on concède. Parce que le président lui-même ne veut pas des injonctions et il en parle toujours. Le président Obama a parlé, avec lui il a parlé à quelqu'un qui lui donnait des conseils. Ce ne sont pas des mauvais conseils. Si ce sont des conseils, le président Kabila va tempérer. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui donne des injonctions. Le président n'a pas répondu. Nous attendons. Il a toujours dit, il a encore un mandat qu'il est en train d'exécuter. Il n'est même pas encore arrivé fin mandat.
La population, elle, souligne que cet appel s'inscrit dans l'esprit de la Constitution de la République démocratique du Congo.
Je pense que le président Kabila lui-même, il le sait qu'il ne doit pas se représenter parce que la Constitution dit que le président de la République n'a que deux mandats. Il a déjà épuisé ses deux mandats. Obama ne le demande pas les yeux de la tête. Il a demandé quelque chose qui est très naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire.
La Constitution ne permet pas à ce que le président Kabila puisse revenir en 2016. Alors Barack Obama, il a raison parce que si le président Kabila ose aujourd'hui, ça va créer une bombe en République démocratique du Congo et dans la classe politique congolaise.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La fin de Boko Haram est proche, c'est ce qu'a déclaré ce matin sur VOA Afrique Mamadou Issoufou. En visite aux États-Unis, le président nigérien est revenu sur la lutte contre Boko Haram et demande le vote d'une résolution de l'ONU. Mamadou Issoufou, au micro de Nicolas Pinault, une interview à retrouver sur voaafrique.com.
Boko Haram, certes, n'est pas éradiqué, mais Boko Haram a été très fortement affaibli suite aux interventions de la force mixte multinationale qui comprend le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Bénin. Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria contre Boko Haram. Il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. C'est le cas de la ville de Damasak, c'est le cas de la ville de Douchi, la ville de Gachgar, que la ville de Malamfotri a été libérée par la coalition nigéro-tchadienne.
Le président tchadien Idriss Déby s'est ouvertement exprimé concernant ses frustrations, concernant l'attitude du Nigeria et de son armée de ne pas finir le travail côté nigérian de la frontière. Avez-vous les mêmes frustrations?
Écoutez, je ne ferai pas de commentaires par rapport à ça. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout, à l'intérieur du Nigeria, au Niger, où ils ont essayé de nous attaquer le 6 février dernier. Nous les avons repoussés à Bosso, à Diffa. Nos forces ont pris le dessus. Nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis, Boko Haram n'a pas d'avenir. Dans quelques mois, nous verrons la fin. de Boko Haram dans la région du lac Tchad, avec la mutualisation des moyens des différents pays que j'ai cités et qui font partie de la force mixte multinationale, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Je pense qu'ensemble, nous vaincrons Boko Haram et nous allons donner pour l'Afrique un exemple, un modèle de mutualisation des moyens entre pays pour faire face aux menaces comme celle du terrorisme.
Est-ce que la victoire du candidat Buhari à l'élection présidentielle nigériane peut apporter un plus sur le terrain ?
Écoutez, d'abord, je dois me féliciter du bon déroulement des élections au Nigeria. Vous savez, en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, on craint des conflits post-électoraux. Or, je viens d'apprendre que le président Jonathan a téléphoné au général Buhari qui a gagné les élections pour le féliciter. Donc, je ne peux que me féliciter de la bonne issue des élections au Nigeria. Et je pense que ces élections permettront de créer les conditions pour que le Nigeria combatte de manière encore plus efficace Boko Haram.
Mamadou Issoufou au micro de Nicolas Pinault.
Nous restons au Niger, dans le sud-est et plus précisément dans la petite ville de Damasak. En novembre dernier, le drapeau noir et blanc de Boko Haram flottait sur la mosquée de la ville. Des milliers d'habitants ont dû fuir en laissant derrière eux vieillards et invalides. Le chemin de l'exil a été particulièrement rude. Notre envoyé spécial Idriss Fall a retrouvé ses réfugiés dans le camp de Gamari, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Diffa. Écoutez leurs témoignages.
Ils ont tous fui les horreurs perpétrées par Boko Haram à Damasak. Aujourd'hui, ils sont entassés dans un camp de réfugiés tenu par le HCR à Gagamari, non loin de Diffa.
C'est Boko Haram qui les a chassés pour...
Ils sont là chez eux, Boko Haram était venu. Le lundi matin, le jour du marché de Damasak, ils sont venus rentrer dans la ville. Ils ont tué beaucoup de personnes, plus de 500 personnes.
Est-ce qu'il a perdu un des membres de sa famille ?
Ah bah, pas ma base,
il n'a pas perdu aucun membre de sa famille, mais tous ses enfants, sa famille sont là. Mais il reste deux qui n'ont pas retrouvé jusqu'ici. Il y a deux enfants qui n'ont pas retrouvé ça.
Alaï Modou, Damasak.
Alaï Modou de Damasak.
Donc
c'est le jour où Boko Haram avait attaqué. Nous, on a fui, sans chaussures, sans habits. Comme ça, on a traversé pour venir au Niger.
Est-ce qu'il a pu fuir avec sa famille ou bien...
Il a une femme et 12 enfants. Et grâce à la volonté de Dieu, il a pu avoir tous ses enfants à ses côtés.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la vie ici ?
Depuis qu'ils sont là, ils remercient l'État du Niger pour les efforts qui lui sont consentis. Donc l'eau, ils en ont suffisamment, mais c'est au niveau de la nourriture qu'il y a des difficultés. Ils n'arrivent pas toujours à manger comme ils le veulent.
Elle
s'appelle Achafana, elle vient de Damasak. C'est le lundi lorsqu'il a vu l'attaque de Boko Haram. Nous avons traversé la rive. Il y a d'autres. L'eau les a amenés. Donc ils sont morts dans la traversée.
Quand Boko Haram est arrivé, elle a vu des morts pendant leur attaque.
Elle a vu de ses propres yeux. Il y a beaucoup qui ont été tués. Il y a des jeunes, des femmes, des grands. Ils ont tué. Elle a vu de ses propres yeux.
Est-ce qu'elle est venue avec toute sa famille ou bien est-ce qu'elle a laissé des enfants derrière?
On est sortis avec ceux qu'on a pu sauver. On les a amenés avec Boko Haram. Ils ont gardé nos enfants aussi. Il y a des enfants qui restent avec eux là-bas.
Il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup d'enfants otages de Boko Haram qui sont dans les mains de Boko Haram, entre 400 et 500 comme ça.
Depuis le camp de réfugiés de Gagamari, Idriss Fall, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce mercredi pour écouter de la bonne musique country. Et bien sûr, nous allons aussi lire le mail que vous nous avez envoyé sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Notre sujet de cette semaine, comment éviter les conflits avec la belle famille? Comment améliorer aussi la relation avec sa belle famille? La difficile relation, on l'a dit, hein, avec la belle famille a toujours existé à travers les époques. Elle peut aboutir à créer des tensions irréversibles et par conséquent s'y traduire en problème de couple. Alors, les torts sont souvent partagés et à force des patiences, il est possible d'améliorer les rapports entre ses meilleurs ennemis. Les amis, ne ratez pas, continuons avec ce sujet. Cette semaine, nous allons lire bien sûr vos messages que vous nous avez envoyés, que vous nous avez textés aussi sur notre numéro d'Abidjan 225-58-928540. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot. Présentation Salwa Jafari et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Et à 19h, temps universel.
Le monde aujourd'hui, partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA.